Géopolitique.
Chantal Laureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique, une émission en partenariat aujourd'hui avec l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée-Moyen-Orient, à l'occasion du colloque « L'Irak, un État sans nation, contestation, ingérence, milicisation ». Depuis le 1er octobre, un mouvement de contestation spontanée lancé par la jeunesse chiite embrase l'Irak. Les manifestants réclament la chute du régime, la refonte du système politique basé sur le confessionnalisme, un renouvellement complet de la classe dirigeante. Ils exigent la fin de la corruption, dénoncent l'ingérence iranienne dans leur pays et n'hésitent pas à critiquer les religieux. Pris de court, le pouvoir coupe Internet pendant 2 semaines et répond par une sanglante répression. 500 morts au moins et 17 000 blessés. Des assassinats ciblés, des enlèvements, des dizaines d'arrestations. Une répression qui n'a fait que renforcer la détermination des jeunes contestataires. Jusqu'où sont-ils prêts à aller? La colère et le désespoir peuvent-ils conduire à la création d'un front uni au-delà des clivages religieux ou communautaires? Le pouvoir irakien a-t-il encore une légitimité? On en débat avec nos invités. Loulou Al-Rachid, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse, consultante spécialiste de l'Irak, basée à Beyrouth. Adel Bakawan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Centre de sociologie d'Irak à l'université de Soran, au Kurdistan irakien. Et Agnès Levallois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente de l'IREMO, consultante spécialiste du Moyen-Orient. Adel Bakawan, je vais commencer avec vous. En quoi ce mouvement de contestation est-il inédit en Irak?
Parce que tout simplement, pour la première fois depuis 2003, on a un mouvement de contestation qui n'est pas ethnique. Les Arabes contre les Kurdes, les Kurdes contre les Arabes. Il n'est pas confessionnel, les chiites contre les sunnites contre les chiites. C'est un mouvement, il faut le dire, qui est émergé à l'intérieur de la communauté, de la maison du territoire chiite. Autrement dit, dans le sud de l'Irak, de Bassoura jusqu'à Bagdad. Ce territoire dominé socialement, culturellement, économiquement, à toutes les échelles, par la communauté chiite. Ça, c'est la première nouvelle de ce mouvement de contestation. La deuxième, c'est que pour la première fois, ce mouvement de contestation d'une base sociale chiite, frustrée, abandonnée, marginalisée, livrée à elle-même contre les élites chiites, hyper privilégiée. C'est pourquoi je dis, cette base sociale, à 89%, cette base sociale-là n'a aucune confiance en cette élite qui dirige le gouvernement. Et donc, la deuxième nouveauté de ce mouvement de contestation, pour la première fois, vous avez un mouvement qui est capable de renvoyer un premier ministre. Ce qui est inédit depuis 2003. Vous avez un mouvement qui met en doute la totalité de l'existence de cette classe politique. Vous avez un mouvement qui obtient ce que j'appelle la réforme de la constitution, ce qui était un tabou pour les Kurdes et les autres communautés, même pour les chiites. Vous avez un mouvement qui obtient à peu près, avec la caution de la marjaïa, sans... Je ne sais pas si le système économique irakien peut financer ce projet, mais 125 000 emplois, 45 000 logements. Enfin, voilà, il y a quand même des nouveautés, il y a quand même une phase extraordinaire dans la trajectoire de ce mouvement de contestation.
Leloua Al-Rachid, est-ce que ce mouvement marque un tournant pour le régime mis en place en 2003 après la chute de Saddam Hussein?
Oui, indéniablement. Et je rajouterais, vous avez posé la question de qu'est-ce que ce mouvement change, en quoi est-il différent. Adel a très bien souligné la nature de ce mouvement qui n'est ni ethnique ni confessionnel, mais qui porte sur des revendications sociales et économiques. Je dirais que ce qui est inédit aussi dans ce mouvement, c'est l'ampleur de la répression. Et je crois qu'il faut le souligner, la répression qui a débuté dès le 1er octobre, dès le début de ce cycle de manifestations et de protestations, est d'une ampleur totalement inédite. Depuis 2003, nous n'avons pas vu le pouvoir en place à Bagdad réprimer d'une manière aussi violente, aussi sanglante. Il y a probablement 500, quelque chose comme 500 morts tués par les forces de l'ordre ou les forces du désordre, puisqu'on ne sait pas qui réprime en Irak. L'État se défausse sur des tierces parties, sur des miliciens. Mais en tout cas, la répression a déjà fait 500 morts et plus de 15 000 blessés. C'est quelque chose d'extrêmement brutal, violent. Et je crois que ce cycle de violence n'est pas prêt de s'arrêter. Donc ça, pour moi, c'est un aspect extrêmement important à souligner, la violence. C'est un régime qui est dans l'impasse, qui est totalement dans l'impasse. C'est une impasse. C'est le régime mis en place par les Américains en 2003 et tel qu'il a été repris par les élites irakiennes rentrées d'exil et qui l'ont fait fonctionner et qui l'ont totalement dominé et contrôlé. C'est un régime qui, aujourd'hui, en 2019, fin 2019, a atteint un point de non-retour. Il est dans une faillite politique, dans une faillite économique et dans une faillite, je dirais, morale. Il est totalement, totalement discrédité et rejeté par l'ensemble de la population qui ne voit dans cette classe dirigeante qu'une oligarchie de corrompus qui ont tout simplement pillé le pays et vidé le pays de ses richesses et qui ont exfiltré des sommes colossales, des milliards et des milliards de dollars. Rappelons que l'Irak est un pays riche, c'est un pays pétrolier qui produit, qui aujourd'hui le troisième producteur mondial de pétrole. Et toutes ces richesses-là, aux yeux des Irakiens, aux yeux du citoyen irakien, ces richesses sont parties en fumée puisque ces conditions de vie, depuis 2003, n'ont fait que se dégrader. Et quand on parle de dégradation, ce sont des conditions sanitaires épouvantables. Le système éducatif a totalement régressé. L'infrastructure de santé est dans un état lamentable, et je dirais que
pas de services de base, donc
les services de base sont totalement inexistants. Il y a deux ans, il y a eu un empoisonnement à Bassora puisque l'eau dans les robinets était empoisonnée. Il y a eu plus de 100 000 cas d'empoisonnement à cause de l'eau. Donc voilà ce qui se joue aujourd'hui. Je crois que le régime de mis en place en 2003 a atteint un point de non-retour pour moi.
Agnès Levallois, vous êtes rentrée d'Irak il y a quelques jours. Qu'est-ce qui vous a frappé chez ces jeunes contestataires ?
Ce qui m'a frappé, c'est leur détermination. C'est le fait qu'ils n'ont rien à perdre. Et ils ne cessent de dire qu'ils n'ont rien à perdre et qu'à partir de là, ils iront jusqu'au bout. Et qu'en dépit de la répression telle que Loa l'a souligné, qui est d'une violence extrême, ils nous disent clairement et sans aucune hésitation que, en dépit de cette violence, de cette répression utilisée par le régime, ils iront jusqu'au bout, avec cette explication très simple, qui est de dire, de toute façon, qu'on meure à petit feu chez nous, ou qu'on meure brutalement en place Tahrir, ça ne fait aucune différence parce que dans les deux cas, de toute façon, on disparaît. Donc, à partir de là, s'il y a un espoir, ou s'il y a une possibilité d'expression, on ira jusqu'au bout, parce que de toute façon, on n'a rien à perdre. Et moi, j'ai vraiment été frappée par ces déclarations de beaucoup de jeunes, et c'est frappant quand on voit des jeunes, parce que là aussi la particularité de ce mouvement, c'est qu'il y a un nombre de jeunes, mais jeunes, 13, 14, 15, 16 ans, des gamins qui sont dans la rue, et des gamins de cet âge-là, qui vous disent qu'ils n'ont rien à perdre. C'est absolument terrifiant de ce que ça signifie d'un pouvoir qui a complètement abandonné sa population, et sa jeunesse en particulier, puisque la jeunesse en Irak est majoritaire. Et donc on voit bien effectivement cette faillite du système, du régime, qui n'est absolument pas en mesure de donner, d'offrir à sa jeunesse, je dis même pas des grandes perspectives, mais un minimum de quoi vivre, de quoi survivre. Et cette jeunesse qui n'en peut plus d'être dans une situation justement de survie et à peine de survie, dit de toute façon, on n'a rien à perdre. Et ce qui est absolument sidérant aussi dans ce mouvement, c'est la créativité, c'est la façon dont on ces jeunes de s'exprimer sur les murs Place Tahrir. Et là, vous avez des jeunes, et Loa l'a souligné, qui sortent d'un système éducatif lamentable, où tout est complètement par terre. Et vous avez ces jeunes, beaucoup d'entre eux sont presque analphabètes parce que le système scolaire ne leur permet pas d'avoir acquis le minimum de connaissances, et qui expriment à travers les graffitis, les dessins sur les murs, une créativité, une intelligence, une maturité, un esprit critique absolument saisissant. Et donc je pense que ce décalage est encore plus frappant aujourd'hui entre cette élite qui s'enrichit tous les jours un peu plus, vieille, vieillissante, qui comprend rien, et cet éclatement de cette jeunesse qui est prête à aller jusqu'au bout et quitte à perdre la vie. Et effectivement, le nombre de morts, on avance 500 et c'est probablement bien plus que ça.
Quels sont les slogans les plus fréquents qui reviennent ou qui vous ont marqué?
Oh, il y en a un que j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est qu'on voit, vous savez, les tuk-tuk qui sont ces petites motos, les taxi-motos et qui trimballent tout le monde, et en fait avec une poubelle derrière, et donc on dit la poubelle dans laquelle on va mettre tous les dirigeants. Mais il y en a tellement, alors je les ai plus tous en tête, mais Louloua, je suis sûre que tu en as d'autres en tête.
Alors, ils sont descendus, les jeunes, effectivement, donc ce sont... Les artisans, les héros et les martyrs de cette révolution sont des adolescents. Et c'est important de le souligner. Quand on voit les 500 morts, il y a une écrasante majorité de mineurs parmi les victimes de la répression. Les slogans les plus importants, c'est « Je descends prendre mes droits ». Ça, c'était un des slogans les plus entendus. Mmh. Un autre slogan était « Je veux une patrie ».
Je veux une patrie, oui. Ça, je l'ai beaucoup entendu.
Et ça, c'est extrêmement important. Mmh. C'est une révolution pour la dignité. Les jeunes veulent être respectés. Effectivement, le fossé entre la classe dirigeante vieillissante, plus ou moins coupé des réalités du pays, et cette jeune génération a été sous-estimée. Et je crois que ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est de constater à quel point les élites dirigeantes, ceux qui détiennent les rênes du pouvoir depuis 2003, ont été frappés par l'ampleur et la violence de la contestation et du rejet. Ces jeunes-là ne sont pas prêts à faire des compromis, ne sont pas prêts à accepter les concessions que le pouvoir leur promet, les centaines de milliers d'emplois qu'on leur promet, les logements qu'on leur promet. Ils n'ont plus confiance dans cette élite dirigeante et dans sa capacité à réformer le système ou à changer son comportement et sa façon de gouverner et d'administrer le pays. Ce sont des jeunes qui veulent aujourd'hui en découdre. Alors pour le moment, le mouvement reste pacifique, plus ou moins. La protestation reste plus ou moins pacifique, mais on voit déjà des signes avant-coureurs d'une possibilité de radicalisation. Et c'est là, je crois, nous sommes à un tournant aujourd'hui dans ce cycle de protestation. Et je crois que c'est ce qu'il va falloir surveiller de près dans les jours à venir.
Jeudi matin, par exemple, un adolescent accusé d'avoir attaqué des manifestants a été lynché puis pendu à Bagdad. Apparemment, tout est parti d'un différend entre cet adolescent et des manifestants. Qu'est-ce qui se cache derrière cet acte barbare? Parce que les contestataires affirment que ce sont les milices qui sont à l'œuvre, qu'il s'agit d'un complot, d'une machination pour décrédibiliser le mouvement de contestation. Qu'est-ce que vous en pensez, les uns et les autres?
Ce que je pense, c'est que de toute façon, il y a des forces aujourd'hui à l'œuvre, effectivement, qui de toute façon se rendent bien compte que ce mouvement leur échappe complètement. C'est-à-dire ce mouvement vraiment de jeunes qui ne répondent à aucun mot d'ordre, qui sont vraiment, eux, sur le terrain à gérer la situation, qui veulent vraiment garder cette autonomie de réaction par rapport à ce mouvement qu'ils ont lancé, qu'ils ne veulent pas se faire prendre par des groupes. Et on voit bien des milices, alors là c'est toute la question des milices, qui sont ces milices entre les forces de l'ordre, les milices, à qui répondent-elles? Et on voit bien qu'il y a un jeu dramatique et évidemment très dangereux à terme, entre ceux qui voudraient que ce mouvement s'arrête parce que effectivement cette provocation vécue comme telle par un certain nombre de responsables et de milices face à ces jeunes qui leur échappent complètement et qui veulent complètement mettre à bas ce régime. Et donc ces groupes-là ne veulent pas se laisser faire. Et donc le meilleur moyen de réagir, c'est quoi? C'est d'essayer d'utiliser la violence, d'essayer de fractionner ce mouvement, de faire en sorte que ce mouvement qui jusque-là arrive à gérer... C'est impressionnant la façon dont les jeunes gèrent même la place Tahrir. Ils la gèrent complètement, ils ramassent les ordures, il y a des groupes qui viennent apporter la nourriture, il y a des groupes qui viennent, il y a des médecins, des infirmiers et infirmières, il y a beaucoup de femmes dans ce mouvement aussi qui viennent, qui s'occupent de ces jeunes. Donc on voit bien cette organisation telle qu'elle s'est mise en place et qui dure ça fait 2 mois que ce mouvement a commencé, et cette organisation continue à permettre à ces jeunes de vivre à Place Tahrir. Et donc ça, c'est un défi majeur pour les autorités et pour les milices, qui se disent mais finalement ils arrivent à s'organiser, ils arrivent à être extrêmement responsables, et donc pour eux, c'est absolument intolérable. D'où, je pense, la volonté de certains d'essayer, effectivement, de casser, de fragmenter et de revenir, je veux dire, à des réflexes autres et peut-être, effectivement, de faire en sorte que les gens se dressent les uns contre les autres, comme l'exemple de ce drame qui est arrivé hier sur la place.
Agnès, l'émission, elle va passer samedi, donc jeudi. Le drame qui est arrivé, tu peux reprendre ta phrase ?
Donc le drame qui est arrivé jeudi, effectivement, peut être un signe avant-coureur de cette volonté de fragmentation de ce mouvement et pour l'affaiblir au bout du compte.
Adèle Bakaouane, pourquoi est-ce que ce sont dans les villes saintes chiites que la répression a été la plus violente, que le bilan est le plus meurtrier ?
Pour plusieurs raisons, plusieurs causes, mais la cause majeure, c'est que à ce jour-là, vous avez à peu près entre 100 et 130, voire 160 000 miliciens, majoritairement de cette région-là, du pays des chiites, et surtout du Najaf, du Karbala, de toutes ces villes saintes. Et ces milices ne sont pas forcément organisées ou sous le contrôle de l'État central, si on peut encore parler de l'État central. Autrement dit, la gestion de la violence de la part de ces milices est organisée d'une manière autonome à l'intérieur de ce mouvement. La première. La deuxième cause, cette base sociale en révolte à Najaf, à Karbala, à Samao, mais dans d'autres villes chiites, ont un slogan. Par exemple, à Bagdad, on dit « Nourid Watan » ou ça, c'est le slogan majeur. Ou « Accès à la dignité ». Voilà, on voit une patrie, on voit un pays, on voit un État, mais dans à Najaf, à Karbala et dans d'autres villes, dans le sud, on dit « Iran Barab ». On demande le départ de l'Iran. L'Iran dehors. Et on sait très très bien, une bonne partie de ces milices appartiennent directement à ce qu'on appelle dans le fiqh, dans la jurisprudence chiite, al-wilayat al-faqih. C'est-à-dire, ils reçoivent directement l'ordre de Ayatollah Khamenei et non pas ni de Ali Sistani ni d'Adel Abdel Mahdi.
Ali Sistani, qui est donc la plus haute autorité religieuse chiite en Irak.
Voilà.
Le loi al-Rachid. Les religieux ont perdu également tout crédit auprès de cette jeunesse désespérée.
Je crois que c'est quand on dit le système, le pouvoir, et le pouvoir, il ne faut pas oublier que depuis 2003, ce pouvoir s'appuie sur ce qu'on appelle la marjaïa, qui est la plus haute autorité religieuse chiite, qui est le clergé chiite, avec à sa tête l'ayatollah Sistani. Ce clergé a cautionné le système politique mis en place en 2003 par les Américains. Il a cautionné la vie politique, il a cautionné la vie parlementaire, et je dirais, il a même donné une légitimité aux milices regroupées aujourd'hui sous la dénomination de la mobilisation populaire, c'est-à-dire une cinquantaine de milices de tailles différentes, bien entendu, et de poids différents. Mais en tout cas, ce sont les milices qui se sont battues, qui ont secondé les forces armées régulières dans la guerre contre Daesh. Donc le clergé aujourd'hui est perçu comme étant complice de cette classe politique qui a pillé le pays. Et je dirais que l'Irak n'en est pas, depuis 2003, ce n'est pas ce n'est pas le premier cycle de mobilisation. Il y en a eu d'autres. Dès 2010-2011, avec le début des printemps arabes, l'Irak aussi a connu des manifestations place Tahrir, donc dans la place centrale à Bagdad. Mais il n'était pas de cette ampleur et le régime avait pu les étouffer. Mais je dirais qu'un des slogans qui était apparu en 2015 était Bismeddin Bagoun al-Haramiyya. C'est au nom de la religion, les voleurs nous ont volés. Donc c'était une mise en accusation très très nette du clergé religieux, de toutes ces compromissions. Aujourd'hui, vous avez dans le parlement irakien un bon nombre de députés qui sont des religieux, qui sont enturbanés. C'est un système qui a été lourdement cautionné par le clergé chiite, qui en a tiré aussi d'immenses bénéfices, à la fois symboliques économiques et financiers, bien entendu.
On va se quitter le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à parler du vent de contestation qui souffle sur l'Irak.
Géopolitique, Chantal Loureau.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. Nous sommes toujours avec trois spécialistes de l'Irak, Louloua Al-Rachid, Adel Bakawan et Agnès Levallois, pour débattre de ce mouvement de contestation qui, depuis début octobre en Irak, ébranle les pouvoirs politiques et religieux et inquiète Téhéran. Louloua Al-Rachid, est-ce que la lutte contre Al-Qaïda et contre Daesh avait occulté cette colère qui couvait en Irak ?
Oui, bien sûr, mais je dirais que bien avant, depuis 2003, il y avait cette problématique de la guerre contre le terrorisme qui, finalement, remettait à plus tard les revendications socio-économiques et qui, je dirais, donnait de la force au confessionnalisme et donnait de la force à la polarisation entre chiites et sunnites. La fin de la victoire déclarée contre Daesh, même si on peut y revenir, voir jusqu'à quel point Daesh a véritablement disparu de la scène ou pas. Mais toujours est-il que le fait d'avoir reconquis tous ces territoires qui étaient tombés entre les mains de Daesh, le fait que le gouvernement central aujourd'hui exerce son contrôle sur les territoires sunnites, sur toutes les provinces sunnites, et le fait aussi que les sunnites aujourd'hui ont totalement abandonné, sont vaincus. Leurs régions sont détruites. Le choix des armes contre le régime à Bagdad, contre le pouvoir central, n'est plus d'actualité, n'est plus à l'ordre du jour. Donc, finalement, puisque le terrorisme a été vaincu, aujourd'hui, on se tourne vers un autre fléau. Et je l'ai entendu souvent formulé de cette manière par les contestataires qui disent aujourd'hui, notre combat est contre un fléau bien plus dévastateur que le terrorisme de Daesh. C'est le fléau de la corruption, le fléau de cette classe politique qui n'administre pas véritablement le pays, mais qui se contente juste de piller ses richesses et d'exercer un pouvoir sécuritaire et d'entretenir des réseaux clientélistes. La rhétorique de la guerre confessionnelle ne fonctionne plus en Irak. Et je dirais, c'est peut-être l'un des bienfaits de la guerre contre Daesh, en fait. C'est l'un des points positifs de l'après-Daesh, c'est que nous sommes passés aujourd'hui, c'est la faillite du confessionnalisme politique, il ne fait plus recette, on ne peut plus gouverner l'Irak au nom de la défense sacrée de la communauté ou de la confession. Ça ne marche pas du côté sunnite et ça ne marche pas du côté chiite. Et ça ne marche pas, je dirais, pas vraiment du côté kurde non plus. Donc aujourd'hui, l'ensemble de ce qu'on appelle les composantes de la société irakienne, l'ensemble des Irakiens aujourd'hui sont dans une dynamique de revendication purement sociale et économique.
Agnès Levallois, vous êtes d'accord ? Cette révolte, c'est aussi le rejet de l'islam politique ?
Oui, bien sûr. Et surtout, ce qui est frappant, c'est de voir qu'en fait, mais c'est pas spécifique à l'Irak, je trouve que dans l'ensemble de la région, finalement, toutes ces dernières années, tout a été focalisé sur la lutte contre le terrorisme et a mis complètement de côté toutes les dynamiques sociales que connaissaient l'ensemble des pays de la région. Et que, au nom maintenant de l'éradication, même si j'ai horreur de ce mot de Daesh, et même si on peut le mettre en question, évidemment, on voit bien que toutes ces questions sociales sont en train de ressurgir parce que on a considéré qu'elles n'existaient plus pendant toutes ces années où on a été complètement focalisé non seulement les pouvoirs sur place, mais la communauté internationale qui a complètement accompagné ce mouvement, ces élites au pouvoir en Irak et dans les pays de la région, au nom de la lutte contre le terrorisme. Et donc là, aujourd'hui, on se prend vraiment en effet boomerang, la réalité de la société qui, effectivement, aspire à une vie autre, donc rejette effectivement cet islam politique, on le voit bien dans le cas de l'Irak, où on voit ces jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent simplement ces jeunes ? Ils veulent vivre, ils veulent avoir de l'eau, de l'électricité, aller à l'école, pouvoir se faire soigner, avoir un boulot et pouvoir rêver à un avenir comme n'importe quel autre jeune dans le monde. Et je pense que c'est important de souligner cette dimension, j'allais dire, banale de ces revendications banales, légitimes de tout un chacun. Quand on pense que l'Irak, un pays extrêmement riche, avec le pétrole, on l'a dit, qui produit plus de 4 millions de barils jour, enfin, ce qui est quand même énorme en termes de ressources économiques, dans une ville comme Bassora au sud, l'été, lorsqu'il fait 50 degrés, il n'y a pas d'électricité et on ne peut pas utiliser les climatiseurs. Donc ça, les gens ne peuvent pas le supporter. Et ça se passe à Bassora, mais ça se passe aussi à Bagdad, ça se passe absolument partout. Et donc le rejet qu'il y a aujourd'hui, c'est le rejet de cette élite politique, mais c'est aussi effectivement une élite politique qui est très islamisée ou qui se revendique pour une grande partie d'entre elles de cet islam politique, dont ne veulent plus ces jeunes, ce qu'ils veulent vivre normalement. Et je crois que ça, c'est vraiment un élément essentiel de la compréhension du mouvement.
Adel Bakawan.
Je suis tout à fait d'accord. En fait, ce n'est pas uniquement le rejet de ces élites, c'est le rejet du système. Système avec deux caractéristiques. Le premier, c'est la systématisation de la corruption. Il faut le dire, de 2003 à 2019, on est arrivé à 420 milliards de dollars de corruption. C'est énorme.
Et l'Irak est classé 168e sur 180 pays au classement de Transparency International.
Deuxième caractéristique, c'est la milicisation de la société irakienne. Aujourd'hui, dans le sud, dans le centre sunnite, mais aussi dans le nord kurde. Autrement dit, faire partie d'une milice, c'est la garantie d'avoir un emploi, d'un salaire, d'un statut social, d'un avenir, d'une perspective. Et si on ne fait pas partie de ces milices-là, on est livré à nous-mêmes. Même si vous avez un master, voire un doctorat, avec un doctorat, vous n'avez pas une perspective d'emploi ou d'intégration au sein de... Premièrement. Deuxièmement, ce qui est la chose la plus problématique, c'est la nature de cet État. Pourquoi on est arrivé là? Pourquoi on est là? Pourquoi on était là et pourquoi on sera là? Tant qu'on n'a pas posé la bonne question sur l'existence de l'État irakien, sur la légitimité de l'État irakien, sur le comment vivre sur le vivre ensemble irakien, selon quoi on vit ensemble, selon quel contrat, dans quel cadre, pas avec quelles conditions. Oui, le slogan, c'est très simple, nourri de Watan. Mais quel Watan? Par qui? À quel moment? Quel pays? Oui, quel pays? Quelle patrie? Selon quel contrat? Selon quel pacte? Par quelle idéologie? Est-ce qu'on voit un Irak, je ne sais pas moi, pas nationaliste arabe? Est-ce qu'on voit un Irak kurdisé? Est-ce qu'on voit un Irak confessionnalisé? Est-ce qu'on voit un Irak avec une identité chiite, une identité sunnite? Quel Irak? Quelle est cette irakicité qu'on revendique aujourd'hui? C'est la question à laquelle, à ce jour-là, il n'y a aucune réponse de la part des Irakiens.
Et alors, comment obtenir une réponse des Irakiens? Est-ce que ça passe par une réforme de la Constitution? Est-ce que ça passe par des élections anticipées? Est-ce que ça passe par un référendum où on poserait la question aux gens?
Ce qu'on a observé, c'est qu'il y a eu des élections législatives l'année dernière, en 2018, qui ont donc conduit à la composition du Parlement tel qu'il existe aujourd'hui.
Donc, avec très peu de participation.
Très peu de participation, qui est complètement remis en question par ce mouvement de contestation tel qu'on le voit, puisqu'il y a un rejet effectivement de ces élites. Ce que l'on voit aussi, c'est que le système politique mis en place au lendemain de l'invasion américaine, il faut peut-être le rappeler, qui est un système confessionnel, avec un président de la République qui est kurde, le premier ministre qui est chiite et le président du Parlement qui est sunnite, et ce système politique tel qu'il a été mis en place est complètement remis en question par les jeunes qui descendent dans la rue, qui justement ne veulent plus de ce système confessionnel. Et ça, je crois que c'est un élément essentiel à souligner, qui rejoint une revendication qui se déroule à Beyrouth, au Liban, actuellement. Donc c'est quand même intéressant de voir que cette jeunesse ne veut plus être prisonnière de ce système confessionnel qui ne conduit qu'à la corruption, à la gabegie telle qu'elle est organisée, aussi bien en Irak qu'au Liban, dans des contexte évidemment différent. Et ça, je crois que c'est la base de ce qui se joue aujourd'hui dans ces deux pays, et en Irak en particulier, où ce système confessionnel, où il y a cette répartition, où donc on se répartit les richesses, on se les attribue et on se les garde pour soi au détriment d'un développement, c'est ça qui est mis en question. Donc, que demandent les jeunes aujourd'hui? Une nouvelle loi électorale et de nouvelles élections. Et donc, effectivement, lorsque l'on voit le plan qui a été proposé par l'émissaire de l'ONU ou la représentante de l'ONU à Bagdad, ça participe effectivement de ces demandes, loi électorale et nouvelles élections sur des bases différentes, peut-être pour permettre justement de sortir du système tel qu'il a été mis en place en 2003 et permettre que les jeunes puissent adhérer à une nouvelle règle du jeu politique. Et comme le disait Adèle, quelle est la base aujourd'hui? Quel est le pacte social? Est-ce que ça a du sens de parler d'un pacte social aujourd'hui en Irak? On voit bien que non, puisqu'il n'existe pas, qu'il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu d'adhésion de la part de la population vis-à-vis de ces élites qui sont complètement décrédibilisées. Donc il faut repartir sur d'autres bases pour tenter de renouer un lien entre les Irakiens et le politique pour que le pays puisse démarrer, fonctionner et offrir, je reviens toujours à cette idée, des perspectives à cette jeunesse.
Loi al-Rachid, mais est-ce que les choses peuvent avancer malgré les Iraniens? Parce qu'on a l'impression que finalement tout ce qui se passe à Bagdad se décide à Téhéran.
Alors, de plusieurs choses. Adèle a parlé de l'identité et de la nature de cet État irakien qui est en cours de construction, en cours de reconfiguration. Je crois qu'il y a deux modèles aujourd'hui. Les Irakiens, depuis 2003, ont expérimenté deux modèles. Il y a ce décorum démocratique qui est le régime mis en place par les Américains avec une constitution, des scrutins législatifs, des élections de province, un pluralisme, une liberté de la presse, ce que j'appelle ce décorum démocratique qui a produit aujourd'hui la classe dirigeante et produit la gabegie, la corruption, des administrations pléthoriques mais complètement inefficaces, incapables d'administrer le pays. Et l'autre modèle qui a émergé et qui, à la faveur des combats contre Daesh, à la faveur de la guerre contre Daesh, s'est imposé et a fait une entrée sur la scène politique par la grande porte, par les élections législatives du mois de mai 2018, c'est le modèle milicien. C'est le modèle d'un chiisme guerrier, d'un chiisme milicien, d'un chiisme un peu calqué sur le modèle iranien, d'un chiisme révolutionnaire, calqué sur le modèle des gardiens de la révolution. Et ce chiisme-là, aujourd'hui, qui occupe la rue dans ses deux composantes, dans sa composante milicienne et dans sa composante lumpenprolétariat, je dirais. Et pour le moment, le combat n'est pas... nous ne savons pas vers où va l'Irak. Je dirais que c'est ça le fond du problème, c'est quel modèle d'État la société irakienne va-t-elle produire ? Et nous sommes à un tournant dans lequel les rapports de force se renégocient entre les uns et les autres. Sur la question de l'Iran, bien entendu, l'Iran est un acteur dominant, est un hégémon qui détient beaucoup de leviers d'influence au sein de la société irakienne, parmi la classe politique, et qui a aussi un poids dans l'économie, et qui, à travers le clergé chiite, a aussi un grand pouvoir d'influence sur la scène irakienne. Il est bien entendu que depuis 2003, l'Iran est très satisfait du régime politique en fait qui est en place, de son fonctionnement, de ses élites qui ont des liens extrêmement intimes avec Téhéran. Et l'Iran est la première force aujourd'hui contre-révolutionnaire. Si le premier printemps arabe en 2010-2011 a été réprimé par les monarchies du Golfe qui étaient les principales forces contre-révolutionnaires, aujourd'hui, aussi bien en Irak qu'au Liban, l'Iran est la première puissance contre-révolutionnaire. L'Iran a tout intérêt à maintenir le statu quo, ce statu quo dans lequel il dispose d'élites dirigeantes, de puissants relais, que ce soit le Hezbollah au Liban ou les milices chiites. Mais je dirais c'est bien au-delà des milices chiites, c'est l'ensemble de la classe politique chiite qui a des liens extrêmement intimes avec l'Iran, y compris ceux qui s'en défendent et qui se vendent à l'Occident comme étant des libéraux. En fait, l'Iran, depuis 2003, a eu le temps d'étendre ses réseaux, de disposer de puissants leviers d'influence dans tout les administrations irakiennes, aussi bien civiles que militaires.
Et ce, à la fois dans nos territoires sunnites, kurdes comme chiites. L'Iran ne se réduit pas à une seule communauté, à une seule classe sociale, à un seul groupe. Il a des liens stratégiques à la fois avec les Kurdes, les sunnites. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui on parle des sunnites iraniens, des Kurdes iraniens. Et pour la première fois, j'ai observé même dans une ville aussi sunnite que Erbil, il y a un mouvement de conversion du sunnisme vers le chiisme, et ce, dans la classe d'imams, des imams sunnites qui se convertissent au chiisme. Et c'est vraiment un phénomène remarquable à Erbil même.
Agnès Levallois, est-ce que l'Iran peut accepter de se désengager d'Irak alors qu'il se sert aussi de l'Irak pour contourner les sanctions américaines ?
L'Iran a un besoin vital aujourd'hui de l'Irak et un besoin encore plus important en raison justement de ces sanctions. Le seul acteur régional avec lequel l'Iran arrive vraiment encore à travailler, c'est l'Irak. Donc il y a vraiment la bouffée d'oxygène de l'Iran aujourd'hui se trouve en Irak, d'où je crois la volonté de l'Iran d'être extrêmement présente, de suivre ce qui se passe aujourd'hui en Irak pour ne pas laisser ce débouché finalement qui est un débouché aussi bien sur le plan politique, on l'a vu, mais aussi effectivement économique. Et donc on voit bien que ce qui se joue aussi, c'est le fait que l'Iran est quand même affaibli aujourd'hui en raison des sanctions imposées par la communauté internationale, enfin par les Américains, mais de fait par la communauté internationale. Et on voit bien que l'Iran aujourd'hui joue très gros, si je puis dire, dans ce qui se passe en Irak, parce que l'Iran a absolument besoin de garder l'Irak, de garder ce lien privilégié avec l'Irak, et qui lui permet quand même de récupérer une manne financière dont l'Iran est complètement privé en raison des sanctions. Donc je pense qu'on va assister, on assiste déjà à vraiment à une volonté de l'Iran de n'absolument rien lâcher en Irak, d'autant que l'Iran est remis en question, puisqu'on voit bien dans les manifestations effectivement à Bagdad, mais là aussi encore au Liban, il y a cette remise en question de ce rôle, de cette influence régionale régional de l'Iran dans les pays de la région et ce qui risque d'aboutir au comportement de l'Iran de se durcir encore plus puisque justement Téhéran ne peut pas se passer aujourd'hui de l'Irak, de cette relation privilégiée que l'Iran a avec Bagdad.
Alors on l'a dit, l'essentiel, la majeure partie des contestataires sont de jeunes chiites, mais le 29 novembre, le jour de la démission du Premier ministre Abdelmadi, la révolte s'est répandue dans les villes du nord de l'Irak, des villes sunnites qui ont observé aussi des jours de deuil en sympathie avec les victimes de la répression. Donc est-ce que ça veut dire que la contestation pourrait présenter un front uni qui dépasserait les clivages sunnites, chiites, chrétiens, yézidis, kurdes? Est-ce que c'est envisageable ou pas?
Les griefs de la jeunesse chiite qui est à Bagdad et dans les principales grandes villes du sud du pays ne sont absolument pas différents des griefs de la jeunesse kurde et de la jeunesse sunnite. Il faut bien le souligner, ce sont les mêmes revendications, ce sont les mêmes souffrances, c'est le même désespoir que partage l'ensemble de la jeunesse irakienne.
Et les mêmes reproches adressés à leurs élites respectives.
Absolument. La corruption touche autant les élites dirigeantes kurdes que les élites sunnites. Elle n'a pas de religion, encore une fois. Donc, il n'y a absolument pas de différence entre les jeunes de Mossoul et les jeunes de Bagdad. Ils partagent les mêmes grief contre le pouvoir. Je dirais que la raison pour laquelle peut-être dans ces régions, dans les régions sunnites, la population n'est pas massivement descendue dans la rue, c'est parce que vous avez affaire à une société sunnite aujourd'hui qui est détruite, qui est encore traumatisée par l'occupation de Daesh et par la guerre contre Daesh. On parle de régions dans lesquelles il y a aujourd'hui des centaines et des centaines de milliers de personnes déplacées, dont une grande partie vit dans des camps de réfugiés, dans des conditions extrêmement précaires. Vous avez un quadrillage policier des régions sunnites, de la société sunnite, par une multiplicité d'agences de sécurité, de pôles sécuritaires, et en raison de la promptitude de Bagdad à accuser les sunnites d'être des sympathisants, y compris des sympathisants passifs de Daesh, il y a une peur aujourd'hui. La peur de descendre dans la rue et d'être non pas réprimé en tant que révolutionnaire, mais en tant que citoyen irakien qui descend dans la rue pour réclamer des droits, pour réclamer une patrie, mais en tant que suppôt de Daesh. Et donc, je crois que c'est ça le principal frein à l'embrasement des régions sunnites, qui ont encore plus de raisons d'en vouloir à leurs élites dirigeantes, d'abord locales, mais aussi centrales, celles de Bagdad, puisque si on parle de dégradation des conditions de vie, on parle du côté sunnite de villes entières détruites. Une moitié de la ville de Mossoul, la vieille ville historique, a été détruite à 90% par les combats contre Daesh. Si on parle d'accès à l'eau ou d'accès à l'électricité, ce sont des régions qui, où vous avez des villages entiers qui sont des villages de fantômes, où la vie ne peut pas reprendre puisqu'il n'y a rien, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a aucun commerce et les populations sont déplacées, vivent à plusieurs centaines de kilomètres de leur région d'origine. Et les administrations fonctionnent extrêmement mal dans ces régions libérées. Donc voilà la raison pour laquelle l'embrasement des régions sunnites n'a pas eu lieu. Quant au Kurdistan, mais là je parle sous l'autorité d'Adel, je crois qu'il y a une peur, qu'il y a aussi un contrôle policier, un quadrillage policier et sécuritaire de la société. La jeunesse kurde est descendue à maintes reprises dans le passé pour manifester contre ses élites dirigeantes. Et à chaque fois, nous l'avons vu, la répression a été, certes, pas aussi sanglante que celle que l'on voit se déployer à Bagdad depuis le mois d'octobre, mais elle était proportionnelle à la mobilisation de la jeunesse kurde. Et à chaque fois, malheureusement, la répression a eu raison de la mobilisation et a étouffé toute velléité de contestation du pouvoir.
Je voudrais juste ajouter un mot. Effectivement, il y a un traumatisme de la part de la population sunnite à cause de toutes les lois antiterroristes qui sont passées. Et donc, les menaces qui ont été proférées par le régime, c'est de dire que si... implicite de dire aux sunnites, si vous descendez dans la rue, de toute façon, les lois antiterroristes vont s'appliquer contre vous. Et donc, il y a une peur panique, ce qui n'empêche pas un soutien de la part de beaucoup de sunnites à la révolution, en envoyant de l'argent, en envoyant quelques personnes à Bagdad, à Tahrir, pour participer au mouvement. Donc, il y a quand même une solidarité qui s'exprime, mais avec beaucoup de prudence, due à ce traumatisme de la société, en particulier sunnite, en raison de la lutte contre Daesh et de l'émergence de Daesh dans ce pays.
Alors, on continuera à suivre de près, bien sûr, l'évolution de ce mouvement de contestation qui ébranle l'Irak depuis maintenant 2 mois et demi. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités. Loulois El-Rachid, chercheuse consultante spécialiste de l'Irak basée à Beyrouth. Adel Bakawan, directeur du Centre de sociologie d'Irak à l'Université de Soran au Kurdistan irakien. Et Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO, consultante spécialiste du Moyen-Orient. Merci à Laurie Plisson qui a réalisé cette émission et à Véronique Durand qui m'a aidée à la préparer. À demain. Demain.